Chapitre 9. Conseil pour une conquête. Heureusement pour Camilla, Mistress Albery avait été la seule à l'observer pendant cet entretien, car son trouble eût été plus grand et l'aurait trahi davantage s'il y avait eu d'autres spectateurs. Mistress Albery y prit un véritable intérêt et, doublant le pas, elle lui dit qu'elle avait quelque chose à lui communiquer. Camilla savait à peine ce qu'elle faisait. La surprise de ce voyage inattendu l'avait tellement frappée que toutes ses facultés en étaient presque anéanties. Mistress Albery ne lui dit pas un mot en chemin, et quand elles furent arrivées à la maison, elle la conduisit dans la chambre, lui serra la main et se retira. Rappelée à elle-même par le sentiment de la confusion, Camilla comprit que son trouble n'avait point échappé à Mistress Albery. Elle se ressouvint de ce que son père lui avait dit sur le soin avec lequel on devait cacher ces sortes d'impressions, et désespérant de prendre cet empire sur elle-même, elle désira vivement de retourner à Essrington pour cacher dans le sein paternel sa douleur et sa honte. Elle crut même en ce moment que Mistress Albery s'était trompée, qu'Edgar ne l'avait jamais aimée, que ses attentions, sa tendresse, sa sollicitude, ses avis... En un mot, toutes les marques d'amitié qu'elle avait reçues de lui n'étaient que le résultat de l'intérêt qu'il prenait à sa famille. Quand on appela pour le dîner, elle descendit, les yeux baissés, et voyant qu'on n'avait invité personne, elle en fut à la fois satisfaite et humiliée. Après le repas, Mistress Albery la laissa se retirer, mais elle la suivit bientôt pour lui dire de se préparer pour le spectacle. Et Camilla, tirant son mouchoir pour essuyer ses larmes, « Ah, ma chère !» lui dit-elle en lui prenant la main, « je crains bien que votre ancienne amie n'empêche que les eaux de Tunbridge ne vous fassent tout le bien que vous pouviez en attendre. » Camilla, affectant de ne pas comprendre, dit qu'elle ne s'était jamais mieux portée. « De corps ou d'esprit ?» répondit Mistress Albery en riant. Mais, voyant que la peine de Camilla redoublait, elle ajouta d'un ton plus sérieux, « Voulez-vous permettre, ma chère Miss Tyrold, que je vous parle ouvertement ?» Camilla n'osait dire non, quoiqu'elle craignît de dire oui. Il faudra que je me contente d'un aveu tacite, dit Mistress Albery, si je ne puis obtenir mieux. Je suis vraiment impatiente de causer avec vous. Non, vous pouvez m'en croire que je cherche à satisfaire une inclination officieuse ou impertinente, mais parce que j'imagine que je pourrais contribuer à votre bonheur. Vous ne voulez pas parler, je le vois, et vous avez raison. Car plus vous m'accorderez de choses, moins je vous tourmenterai. Permettez-moi donc de supposer que vous êtes bien convaincu que je connais l'état de votre cœur. » Camilla, tremblante, désirait de s'échapper. Elle tournait les yeux vers la porte de l'appartement et n'avait pas une idée qui ne tendît à chercher un prétexte pour rompre cet entretien. « Si vous vous effrayez, je ne dis plus rien. Mais en penserai-je moins, en saurai-je moins, quoique je ne le dise pas ?» « Ce n'est pas la parole, ma chère Miss Tyrold, qui découvre les choses. Elle fait seulement connaître les découvertes qu'on a déjà faites. » Un soupir fut la seule réponse de Camilla. Mais voyant qu'elle n'avait rien à gagner en se sauvant, elle prit le parti de rester. « Je vois que nous nous entendons parfaitement, » dit Mistress Albery. « Laissez-moi donc aller mon train, comme si la grande explication était déjà faite. » « Votre imagination, ma belle et jeune amie, s'est coiffée d'un homme qui vous tourmente, je l'avoue, mais qui, cependant, n'est point un ingrat. Car quelque peu de confiance que vous ayez dans le pouvoir de vos charmes, certainement, il vous aime. »« Oh, non, non !» dit Camilla. Mistress Albery sourit et continua. « Oui, ma chère, il vous fait indubitablement cette grâce. Mais si vous n'étiez pas bien avisée, sa passion ne vous servirait à rien. » Votre candeur, votre facilité, votre innocence, quoiqu'il les reconnaisse très bien et qu'il en soit, si vous voulez, dans l'admiration, n'aurait d'autre effet que de l'aliéner de vous. » À ces mots, la contenance de Camilla parut demander une explication que Mistress Albery s'empressa de lui donner. « Vous serez étonné, lui dit-elle, et cela est bien naturel, que de telles forces attractives puissent opérer dans un sens contraire. » Mais je serai assez claire et précise, et vous serez assez candide et assez raisonnable pour ne pas vous fâcher. Oui, ma chère, ces précieuses qualités dont nous venons de parler seraient les causes de ce malheur, parce qu'elles s'offrent à celui qui les reconnaît en vous un moyen certain de vous dominer. Non, madame, non, Mistress Albery, dit Camilla, dont l'orgueil avait en ce moment repris le dessus. Il ne peut pas juger ainsi de moi. Je ne voudrais pas vous fâcher pour tout le monde, mon aimable et jeune ami, mais pardonnez-moi si je dis que pour que cela n'arrivât pas, il faudrait qu'il fût plus aveugle que je ne le suppose, et, à vous dire le vrai, plus aveugle qu'aucun de son espèce. » Confondu, irrité et piqué au vif, Camilla garda un moment le silence et répondit ensuite d'une voix mal articulée « Si telle est votre opinion, je me flatte du moins, madame, que ses espérances ne seront pas fondées, qu'il se laissera tromper par son imagination, et voilà tout. Soyez ferme dans cette résolution, et vous le verrez où il doit être, je veux dire, à vos pieds. » Rassurée, quoique involontairement, par cette conclusion inattendue, Camilla détourna le visage pour cacher une rougeur dont la peine n'était pas le seul motif, et laissa continuer Mistress Albery, qui reprit en disant « Il n'y a qu'une manière de se conduire avec un homme rêveur et méditatif tel que lui. Qu'il craigne de vous perdre, stimulez-le avec le doute. » « Mais, madame, dit Camilla d'une voix chancelante, pourquoi voulez-vous que j'aie une manière de me conduire avec lui ? C'est la crainte que vous n'en adoptiez aucune qui est précisément le motif de cet entretien. Vous avez assez peu d'expérience du monde pour croire que les hommes vont d'eux-mêmes. Vous vous trompez, ma chère amie. Cela est très rare si vous en acceptez des jeunes gens enthousiasmés dans l'ardeur et dans l'innocence d'une première inclination. Mandelbert s'est déjà soumis à d'autres principes, plus favorables à sa vanité, quoique plus contraires à son bonheur. Fiez-vous-en à une personne qui a plus d'expérience de la vie que vous-même. Et croyez-moi quand je vous assure que la sécurité de Mandelbert est un poison pour lui et pour vous. » Camilla rougit plus que jamais en répétant d'un air piqué « Sa sécurité ? Mais alors, étant aussi riche, comment peut-il hésiter ?»« Aussi riche ? » répéta Camilla. « Je ne crois pas qu'il puisse supposer que ce motif... » « Je conviens que ce serait une supposition très choquante. Mais comme, d'une manière ou d'autre, cette matière vile qu'on appelle argent est destinée à nous procurer les agréments et les douceurs de la vie, celui qui en est abondamment pourvu peut avoir un demi-soupçon que cette qualité n'est pas indifférente au point d'être comptée pour rien quand il s'agit de mariage. » La seule idée d'un pareil soupçon blessa Camilla plus que tout ce qui avait été déjà dit. Mistress Albery lui parut sans délicatesse et sans générosité. Et regrettant de l'avoir jamais vue, se repentant d'en avoir fait la connaissance, elle se laissa tomber sur une chaise en fondant en larmes. Mistress Albery l'embrassa, lui demanda mille fois pardon, l'assura que tout ce qu'elle avait dit était l'effet de l'estime et de l'affection la mieux prononcée, qu'elle avait reconnu en elle trop de délicatesse et trop peu d'expérience pour qu'elle pût s'apercevoir des dangers et des avantages qui l'environnaient, et qu'enfin, il y avait peu de choses qu'elle eût autant à cœur que de lui prouver la sincérité du tendre intérêt qu'elle prenait à sa position et du désir de contribuer à son bonheur. Camilla la remercia, essuya ses larmes et s'efforça de reprendre ses esprits. Mais elle était trop profondément affectée pour éprouver une vraie consolation intérieure. Elle se sentait dégradée par la faiblesse qu'on lui supposait et injuriée par le soupçon d'être susceptible de quelque vue mercenaire. Elle désira de n'être pas obligée de sortir, de rester seule toute la soirée, non à cause du prix du spectacle, car elle avait encore oublié qu'elle était sans argent, mais afin de pouvoir respirer seule et caresser en quelque sorte la tristesse de son âme. Mistress Albery, réellement mortifiée de lui avoir occasionné du désagrément, ne voulut pas la contraindre. Elle renouvela ses excuses et, après avoir obtenu l'assurance de son pardon, elle alla joindre Sir Sedley Clarendel qui l'attendait. Camilla resta quelques moments après son départ dans l'abattement. Cependant, le souvenir de son père et de l'engagement solennel qu'elle avait pris avec lui la retira de cet état. Elle relut encore ses instructions et, déterminée à ne pas augmenter son infortune par aucune infraction à ses devoirs, elle résolut de se donner une apparence de fermeté avant le retour de Mistress Albery. « Mon cher Clarendel, dit celle-ci en entrant dans le salon, cette pauvre fille est plus malade que je ne le croyais. D'après mon expérience du monde, j'ai voulu lui donner quelques avis qui lui ont paru si détestables qu'elle en a presque le cœur brisé. L'arrivée de cet odieux Mandelbert a détruit tous nos projets. Nous voilà déjoués, Sir Sedley, complètement déjoués. » « Oh, certainement, dit le baronnet d'un air moitié piqué, moitié railleur. Cela pourrait-il être autrement? Comment se mettre en concurrence avec Mandelbert? Eh bien, maintenant, vous m'enchantez, mon cher Clarendel. Pour peu que vous vous piquiez au jeu, vous êtes l'homme du monde le plus propre à y conduire Mandelbert. Occupez-vous-en donc, mon bon ami, occupez-vous-en sans délai. Mais comment m'y prendrai-je, de grâce? Donnez-moi quelque instruction. Pauvre innocent, vous ne savez donc pas comment vous devez vous y prendre pour vous rendre agréable? Non, en vérité, je suis à cet égard d'une ignorance absolue. Et n'avez-vous jamais été plus adroit? Non, jamais. Allons, allons, trêve un moment à la raillerie et parlez-moi sérieusement. Avez-vous jamais été amoureux? Parlez-moi vrai, car je suis tourmenté du désir de le savoir. Mais oui, répondit-il en tirant sa lèvre avec ses doigts. Je crois qu'une fois... Ah, dites, dites! Je ne puis pas l'assurer positivement. Quelques-uns croyaient que cela devait arriver, d'autres que je songeais déjà à le devenir. Et en considérant mon extrême jeunesse, on pourrait regarder comme certain que je l'étais. Définissez un peu cela et je vous répondrai plus pertinemment. Quand on se sent très tendre, très malade, avec une légère touche de mélancolie, est-on amoureux? Précisément, précisément, dites-moi donc ce qui vous avait charmé. Était-ce la beauté, la fortune ou l'esprit? Parlez, parlez, je meurs d'envie de l'apprendre. Oh, j'ai oublié tout cela, il ne m'en reste pas le moindre souvenir. Vous êtes un terrible fat, mon cher Clarendel, et moi-même je suis pire que vous en vous donnant ces sortes d'encouragements. Mais toutefois, faisons quelque chose pour cette pauvre malheureuse. Elle ne veut pas même aller au spectacle ce soir. Oh, l'aimable enfant, comment arrangerons-nous cela? Dites-lui que je la prie d'être de notre parti. Vous, mon cher Sedley, mais en vérité, dites-lui que je l'en supplie. Et vous pensez que cela pourra la déterminer? Vous le verrez. Bravo, mon cher Clarendel, bravo. Cependant, si vous avez assez d'impudence pour envoyer un tel message, je ne me sens pas capable de le remplir. J'écrirai pour vous, c'est tout ce que je puis faire. Alors elle écrivit le billet suivant. Sir Sedley Clarendel assure que si vous n'êtes pas aussi inexorable que vous êtes jolie, vous vous joindrez à nous pour aller au spectacle ce soir. Camilla, après avoir rigoureusement discuté ce billet, conclut qu'il était purement l'ouvrage de Mistress Albury, qu'elle l'avait écrit pour la retirer de sa solitude. Elle fit prier qu'on l'attendît. Sir Sedley reçut cette réponse avec l'air du triomphe et Mistress Albury avec surprise. Elle déclara néanmoins que puisqu'il avait autant de pouvoir, elle ne le laisserait pas sans occupation, mais qu'elle le forcerait à travailler auprès de sa jeune amie jusqu'à ce qu'il eût rendu Mandelbert jaloux ou Camilla indifférente. « Ma résolution, dit-elle, est prise de voir Mandelbert à ses pieds ou dehors de son cœur. » Camilla parut en ce moment, et comme elle était sans méfiance, elle remercia le baronnet de son message, disant qu'elle s'était bientôt repentie d'avoir voulu rester. Le baronnet, supposant qu'elle ne disait cela que dans la crainte de le flatter, n'en fut que flatté davantage. En allant au spectacle, Camilla se ressouvint avec beaucoup de confusion que sa bourse était vide. Mais en présence de M. Desnel, de sa fille et de Sir Sedley, elle ne put pas prendre sur elle-même de faire connaître sa détresse. Elle se détermina seulement à prier Mistress Albury de payer pour elle et de renvoyer l'explication à leur retour à la maison. Mais en descendant de voiture, Mistress Albury, suivant son usage, dit « Bon, Desnel, payez pour moi. Vous savez combien je hais de me charger de monnaie. » Camilla, courant après elle, lui dit à l'oreille « Je vous en prie, prêtez-moi quelque argent. » De l'argent, vous savez bien que je n'en porte jamais sur moi. Depuis la perte de mes chevaux et de mon maudit phaéton, je suis pauvre comme Job et par conséquent condamné à éviter toutes les tentations. Je trouve toujours quelqu'un qui me prête. Mais si je les paie, ils pourront bénir leur étoile. Entendez-vous, monsieur Desnel, il y en a pour une centaine d'années avant que je vous rende ce que vous avancez pour moi. Il n'y aura pas d'être vivant qui s'en souvienne quand je vous paierai. Eh, monsieur Desnel ? Eh bien, madame, ici vous changerez sans difficulté. Mais je n'ai point d'or. Vous êtes donc sorti comme moi sans votre bourse ?
Non.
Cette simple négation, prononcée à voix basse, plongea Mrs. Alberry dans le plus grand étonnement. Elle n'en dit rien néanmoins et cria tout haut à M. Desnel de payer pour toute la société. Mais M. Desnel, après avoir payé pour lui et pour sa fille, entra sans autre formalité.
Quel ottento ! Dit Mrs. Alberry. Venez donc, Clarendel, ayez pitié de deux pauvres infortunés et faites-nous passer.
Sir Sedley, ne doutant nullement de la vérité, mais flatté d'être toujours le banquier de Camilla, obéit avec empressement. Mrs. Alberry plaça Camilla sur le siège du devant et fit signe au baronnet de rester derrière avec elle. Alors elle lui dit à l'oreille
« Croyez-vous, mon cher Clarendel, qu'ils ont laissé venir cette pauvre fille à Tunbridge sans un shilling dans sa poche ?»«
Est-il possible ?»«
C'est un fait. Je ne l'avais pas soupçonné jusqu'à ce moment. Elle avait d'abord, j'imagine, une ou deux guinées pour acheter les choses les plus indispensables. » Qu'un bon curé de campagne, accoutumé à ne voir que son presbytère et totalement étranger aux usages du monde, eût cru cela suffisant, je le concevais sans peine. Mais qu'un oncle riche comme celui de Clèves ait souffert qu'elle partît sans argent, c'est ce que je n'imagine pas. Il y a quelques jours que je me suis aperçu de son embarras, mais je conjecturais si peu la possibilité de sa détresse réelle que je l'ai toujours augmentée au lieu de la diminuer.
« Pauvre enfant, dit le baronnet, si j'avais connu sa position, j'aurais mis la moitié de ma fortune à ses pieds. »«
La moitié, mon cher Clarendel, dit Mistress Alberry en riant. Pourquoi pas tout ? Où pourriez-vous trouver une compagne plus aimable ?»«
Eh, mais, dit Sedley, serait-il si horriblement inconvenant qu'un homme riche par hasard donnât quelque chose à une femme qui, par hasard, est pauvre ? Ce préjugé qui défend un usage si naturel de l'argent n'est-il pas d'une souveraine impertinence ? Pourquoi la meilleure partie des actions de l'homme serait toujours soumise à une servitude réglée et par conséquent dépouillée de générosité ? N'est-ce pas une idée affreuse ? Quel emploi plus délicieux peut-on faire de sa fortune que de la partager avec autant d'équité ?
Cela est vrai, Sir Sedley, et vous autres hommes, vous êtes tous si désintéressés, si purs dans votre bienveillance, si dégagés de tout esprit de domination, qu'il ne pourrait jamais résulter aucun mauvais effet d'un tel arrangement. Quand vous obligez une belle fille, une révérence de sa part vous suffit. Vous la laissez ensuite aller paisiblement son chemin, et vous ne lui demandez rien de plus. » Cette raillerie fut interrompue par l'apparition d'Edgar dans une loge opposée.
« Ah, dit Mrs. Alberry, voilà notre amoureux Transi. Entrez en lice avec lui, mon cher Clarendel. »«
Et tenez, voici le major qui remplira beaucoup mieux vos vues. »
En effet, le major entra dans la loge, la conversation finie. Il tâcha, suivant sa coutume, de s'emparer de Camilla. Mais celle-ci n'était occupée que d'Edgar, et tout ce qu'elle pouvait se commander d'attention était pour Sir Sedley. Ceci n'échappa point à Edgar, qui redevint encore incertain si elle aimait le major. Mais ce doute n'eut rien de satisfaisant pour lui, car il lui montrait Camilla sous un jour plus défavorable encore. « Elle va donc, se disait-il à lui-même, de l'un à l'autre, sans autre motif que la circonstance ou le caprice, tantôt l'insipide major et tantôt le fat Clarendel. Se peut-il qu'elle soit versée de si bonne heure dans tous les manèges de la coquetterie ? « Oh, s'il en est ainsi, que je suis heureux d'avoir échappé. Une femme coquette !» À ces mots, son cœur se gonfla et ses yeux cessèrent de se fixer sur Camilla. Au retour du spectacle, quand elle fut rentrée dans son appartement, Mistress Alberry s'y rendit en lui disant « Ma chère Miss Harold, je sais mieux que vous qu'il faut toujours avoir l'argent à la main dans des lieux tels que ceux-ci. » « Permettez donc que je sois votre banquier et dites-moi ce qu'il faut que je vous donne. » Camilla fut réellement sensible à ce procédé et se contenta de demander 2 guinées. Mais Mistress Alberry voulut qu'elle en prît 5, ajoutant qu'elle insistait pour que dans 1 ou 2 jours cette somme fût doublée. « Ne faites pas attention à ce que je dis sur ma détresse, mes chevaux et mon phaéton. » Tout cela n'est que pour tourmenter Desnel, qui tremble quand il s'agit de prêter une demi-couronne pour une demi-heure, ou pour jouir de temps en temps de l'étonnement d'autres personnes, ceux qui ne laissent pas d'amuser, faute de mieux.
Mais croyez, ma chère et jeune amie, que si j'étais réellement dans le besoin ou dans l'impossibilité d'acquitter les petites dettes que je contracte, vous vous en apercevriez bientôt par la désertion de notre société. Ces hommes qui s'empressent autour de nous trouveraient quelque autre centre d'attraction. Je les ai assez étudiés pour les connaître. » Quoique Camilla se sentît humiliée de paraître ainsi dépourvue, elle fut charmée de ne devoir qu'à cette dame. Aussi se promit-elle de payer le jour suivant Sir Sedley et la marchande de mode, remettant à s'acquitter avec Mistress Albury quand elle serait de retour à Essrington.